les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Frédéric Géa, professeur agrégé de droit privé et sciences criminelles à l'Université de Lorraine, soulève la question suivante : à quoi sert le droit du travail ? Quatrième épisode : le droit du travail, une fonction économique.
Chers auditeurs d'Amicus Radio, la fonction sociale du droit du travail dont nous parlions lors de la précédente émission ne se heurte-t-elle pas à une autre fonction que l'on pourrait qualifier d'économique et dont ce droit semble également investi? À la lumière de certaines théories néolibérales, la réponse ne fait aucun doute. Il suffit de songer à Friedrich Hayek, pour qui la justice sociale est tout simplement un non-sens, une superstition quasi-religieuse, un concept vide et dénué de sens, en tout cas au regard de cet ordre anonyme que constitue à ses yeux l'ordre du marché. Mais si on prend distance avec cette vision, il faut convenir que les rapports entre droit du travail et économie ne sont pas nouveaux et qui sont même probablement constitutifs du droit du travail, ce qui permet de penser une fonction sociale et une fonction économique en leur sein, même si des tensions sont susceptibles d'intervenir entre elles. Alors, les considérations économiques, elles ont toujours eu une influence sur la législation du travail. Il suffit de songer à la loi de 1928 en matière de transfert d'entreprise, aux reprises des contrats de travail. C'était quand même aussi pour répondre à une aspiration des repreneurs qui entendaient justement avoir une structure dotée des compétences et dotée des salariés qui en étaient dotés. On peut songer également au droit du licenciement économique, enfin la manière dont chambre sociale de la Cour de cassation a appréhendé sur la base des textes légaux la cause économique de licenciement, a consacré l'exigence de sauvegarde de la compétitivité. Enfin, tout ça montre des liens étroits évidemment avec l'économie. Puis ces liens, ils avaient été mis en avant de longue date. Je songe par exemple à Paul Durand, 1947, il disait que des liens étroits unissent l'organisation économique et le droit du travail, et que ce dernier subit l'influence des idées, des faits, des structures économiques, et que le droit du travail influencer également la vie économique en tant que telle. C'est une interaction qu'il pointait du doigt. Toute la question est donc de savoir de quoi on parle exactement quand on parle de fonction économique. Alors, c'est d'abord cette notion, fonction économique, qu'il s'agit d'interroger. Alors, les premières réflexions approfondies en réalité s'agissant de cette fonction économique, ce sont celles qui ont été développées par Gérard Lioncan dans un article célèbre publié dans le droit ouvrier en janvier 1951 qui s'intitulait « Les fondements historiques et rationnels du droit du travail ». La perspective qu'adoptait Gérard Lioncan était une perspective marxiste. Voilà ce qu'il écrivait. La structure du droit du travail est dialectique. À un moment donné, le droit du travail exprime simultanément le régime d'exploitation de l'homme et les moyens d'en limiter la rigueur, de lutter contre lui. Et c'est, ajoutait-il, ce qui a pu tromper sur sa véritable nature. Ce qui était mis en avant, c'était déjà l'idée d'une forme d'ambivalence du droit du travail dans ses rapports avec le système capitaliste. Mais ces idées-là, c'est Antoine Jameau qui va véritablement les développer dans un article, une étude dense, publiée en 1980 dans l'ouvrage « Le droit capitaliste du travail ». Quelle est l'idée que défend à ce moment-là Antoine Jameau ? C'est l'idée que le droit du travail contribue à la légitimation des rapports capitalistes de production que font d'autres dispositifs d'un ordre juridique dans lequel ce droit du travail s'inscrit pleinement. Ces dispositifs, c'est la propriété, notamment, c'est la liberté, le cas échéant, la liberté d'entreprendre, comme on dira plus tard. Et il tend aussi, ce droit du travail, à sauvegarder ces rapports en limitant ou en tempérant l'exploitation de la force de travail, donc en rendant ces rapports plus acceptables, mais aussi en assurant une manière d'égalité entre des entrepreneurs concurrents et au-delà, entre les détenteurs du capital au service d'une saine concurrence. Voilà comment Antoine Jameau présente véritablement cette thèse. Alors évidemment, ces analyses elles s'inscrivent dans un contexte, dans une époque, et qu'elles aient été depuis, ça ne fait pas de doute à mon avis, démenties par l'émergence de doctrines néolibérales qui étaient enclines à réduire le droit du travail au strict minimum, ce qui pourrait laisser entendre que le droit du travail n'est peut-être pas aussi essentiel que ça au rapport dit capitaliste qui se trouvait mis en avant. Ce constat-là ne retire rien à la valeur intrinsèque, bien sûr, des analyses que je viens d'évoquer. Mais ce sont elles, d'ailleurs, qui ont véritablement souligné cette fonction économique du droit du travail. Alors, quelles sont les finalités, finalement, qui accompagnent cette fonction économique? Il y a tout d'abord une finalité que je dirais historique, c'est l'idée de régulation de la concurrence. Depuis son origine, le droit du travail institue des limites à la concurrence. C'est au principe même de l'OIT, il suffit de se reporter au préambule de la partie 13 du traité de Versailles du 28 juin 1919, qui a institué l'Organisation internationale du travail, pour y lire cette considération célèbre, selon laquelle la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux apports des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leur propre pays. Bon, voilà, c'est le danger de contagion du mauvais exemple d'un côté, mais c'est aussi le risque de concurrence économique entre firmes et entre pays basés sur les coûts sociaux qui est mis en avant. La conception même du droit du travail légal comme celle de la négociation collective procède justement de cette régulation de la concurrence. Quand on a inventé la convention collective de branche, lorsque la loi du 24 juin 1936 entend en faire la loi de la profession, il s'agit dans une certaine mesure de réguler la concurrence, idée que l'on retrouve aujourd'hui à l'article L2232-5-1 du code du travail. Le mécanisme de l'extension lui-même, bien sûr, participe de cette finalité, même s'il a été revu, et justement, s'il est possible aujourd'hui pour le ministre du Travail de refuser l'extension pour des motifs d'intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence. C'est une manière d'atténuer probablement cette finalité. D'ailleurs, cette atténuation, elle emprunte d'autres formes. On pourrait regarder également du côté du droit social de l'Union européenne, même si un certain nombre d'institutions ont été préservées, notamment, je pense, à la négociation collective. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel tient à ce que cette finalité de régulation de la concurrence côtoie aujourd'hui une autre finalité qui est une finalité, en proprement parler, concurrentielle, au sens où le droit du travail devrait servir la compétitivité. Alors, cette finalité de compétitivité, elle se trouve portée par les réformes les plus récentes. Elle signifie une rupture, quand même, par rapport à une certaine construction du droit du travail. Antoine Yoncan l'a très bien dit, la grammaire juridique du droit du travail s'est historiquement construite en rupture avec la grammaire du marché. Et je ne peux que rappeler ce principe fondamental que la Conférence internationale du travail adopta à Philadelphie le 10 mai 1944, le travail n'est pas une marchandise. Ça veut dire que le droit du travail, s'est attaché à soustraire le travailleur à l'emprise du marché. C'est pas le marché qui va évaluer, qui va contrôler la prestation du travailleur, c'est pas le salarié qui va assumer le risque de l'entreprise, une responsabilité à l'égard des co-contractants de l'employeur. Les conditions d'emploi et de travail ne vont pas être totalement abandonnées au contrat de travail. Voilà, c'est cette idée sans laquelle le droit du travail à préserver justement le travailleur de ce marché. Il n'empêche que, et puis l'action collective aussi a joué, la reconnaissance de l'action collective a joué un rôle majeur sans que la grève soit regardée comme une entrave au bon fonctionnement du marché. Il n'empêche que Certains auteurs, je pense à Tania Zaks par exemple, mettent en avant l'idée d'un droit du marché du travail. Et on s'interroge effectivement sur le fait que le droit du travail pourrait mettre en concurrence les salariés et même les entreprises elles-mêmes, ou les salariés à travers les entreprises elles-mêmes, lorsque l'on renforce, disons, le champ de la négociation collective d'entreprise, lorsque l'on confère une primauté à ces accords d'entreprise par rapport aux conventions collectives de branche, eh bien on prend effectivement une direction qui peut conduire à ce que les normes soient particulières à tel ou tel type d'entreprise. Et ça pourrait heurter de façon générale, mais sans doute ne faut-il pas être excessif et regarder de plus près ce que font réellement les acteurs justement du dialogue social, mais ça pourrait effectivement prendre à rebours cette volonté de limiter le dumping social, comme on dirait aujourd'hui. Mais au-delà, le droit du travail est aussi saisi, utilisé, instrumentalisé, je dirais volontiers, par les pouvoirs publics, comme étant un moyen de défendre la compétitivité de nos entreprises, voire de notre pays. La réforme de 2017, elle visait aussi à attirer les investisseurs étrangers. Il ne faut pas le perdre de vue. On est là dans un contexte de droit global et une approche pragmatique de ce contexte conduit à identifier que certaines entreprises d'une certaine envergure à tout le moins, peuvent effectivement choisir de s'implanter ici ou là en fonction des données du droit. C'est une approche qui est volontiers mise en avant par le centre Perelman et notamment par Benoît Friedman. Moi, j'adhère volontiers à cette vue. Il faut en tout cas aussi la prendre en compte et on ne peut pas l'ignorer. Seulement, le droit ne se réduit pas à cette dimension. Il y a comme un conflit, hein, un conflit de normativité même, qui se loge en son sein entre cette aspiration-là et puis d'autres aspirations répondant à d'autres fonctions, notamment à la fonction sociale. Le film En guerre, hein, en offre une belle illustration en réalité.
En tant que chef d'entreprise, je me dois d'avoir une vision globale des choses. Et personne dans cette salle aujourd'hui ne peut nier que nous sommes confrontés à des graves difficultés, une compétitivité qui fait vraiment défaut dans le site d'Agen, qu'il faut et qui a nécessité absolue de fermer.
Si je peux me permettre, Monsieur Hauser, nous ne partageons pas cette analyse. Et d'ailleurs, nous avons tenté en vain de vous faire entendre notre message.
Madame, j'entends bien ce que vous dites, mais vous savez comme moi et tout le monde dans la salle, une nouvelle fois, que la justice française n'a pas suivi les arguments que vous avez développés avec les salariés depuis le début de cette affaire. La fermeture du site d'Agen a été validée par la justice française, et vous êtes une femme de loi, donc je suis confiant que vous respectez la loi, madame.
Certes, mais il s'agit de dialogue social. Et le dialogue social, il ne se fait pas devant les tribunaux. Il se fait... autour d'une table de réunion entre la direction et les salariés.
Alors, quelle est cette analyse économique qui influence le droit du travail ? Est-ce que c'est l'analyse économique du droit façon Richard Postner ou est-ce que c'est autre chose ? Moi, j'aurais tendance à dire que dans les réformes actuelles, l'économie comportementale joue un rôle essentiel. Hein. Je pense aux travaux de Sunstein, de Thaler, de Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002, j'ai l'impression que l'on appréhende effectivement les comportements des acteurs tout en ne les prenant plus nécessairement comme des individus procédant de choix rationnels, comme des agents rationnels. On intègre les biais et le fait que ces acteurs puissent s'appuyer sur des représentations fausses. Alors, l'exemple du barème est assez intéressant de ce point de vue. On peut effectivement le décrypter comme étant influencé par une approche économique libérale consistant à dire il suffit que l'employeur sache quel est le prix à payer s'il procède à un licenciement qui est illégitime. Ensuite, libre à lui de payer ce prix, c'est presque dans l'idée de violation efficace du droit. Presque, parce que c'est quand même le législateur qui orchestre ça. Mais il y a une autre façon de voir ce dispositif. Moi, je crois que c'est une représentation qui est à l'origine de ce dispositif. Une représentation que l'on peut considérer comme erronée ou pas, fondée ou non, c'est pas le problème, mais une représentation qui a été mise en avant par un ministre du Travail consistant à dire un certain nombre d'employeurs se refusent d'embaucher parce que le contrat de travail à durée indéterminée est insécurisé, Un certain nombre d'employeurs se refusent à embaucher par contrat de travail à durée indéterminée parce que le droit du licenciement est insécurisé. Et on va répondre à cette représentation par une autre représentation qui passe par le plafonnement des indemnités consistant à rendre prévisibles les condamnations. Ça, c'est un comportement qui vise à agir sur les comportements d'acteurs en prenant en compte leur représentation, qu'elle soit avérée ou non, et encore une fois, fondée ou pas. Ce qui est intéressant, c'est que la contestation qui a été faite et menée, qui est encore en cours de ce barème, en dépit des avis rendus par la Cour de cassation, justement, vise à déstabiliser cette représentation sécurisante que les pouvoirs publics entendaient offrir, en quelque sorte, en diffusant par les médias des décisions, voire des arrêts qui peuvent prendre leur distance, voire écarter le barème. Et bien c'est une manière d'agir justement sur une représentation et de dire, mais en réalité, vous croyez que c'est sécurisé, ça n'est pas, vous pensez que c'est prévisible, ça ne l'est pas. Et on est sur un terrain véritablement communicationnel, c'est représentation contre représentation. Voilà aussi ce à quoi peut conduire l'économie comportementale. Mais il se pourrait bien qu'à côté de cette fonction économique, qu'à côté de la fonction sociale que nous avions évoquée, existe une autre fonction, peu mise en avant jusque-là. C'est à elle que nous nous intéresserons lors de la prochaine émission. Bonne journée à tous.
Cet épisode des Amphis d'Amicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphis d'Amicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.